Bonjour à vous et bienvenue dans ce 7ème épisode de Flux RSS. Cette fois, encore une fois, c'est une lecture de livre. Et ce livre, il s'intitule 10 questions plus une sur l'Union Européenne. C'est écrit par David Kella et Coralie Delhomme. Et c'est sorti aux éditions Michelon. Alors, on va commencer à en parler et c'est tout de suite après. USSR. Donc, comme vous l'aurez compris, ce livre s'articule autour de 10 questions plus une. Donc, ça, en fait, c'est 11. En fait, il y a une petite question supplémentaire. C'est assez courte, mais en fait, c'est, voilà, c'est pour ça que c'est 10 questions plus une. Et donc, ce livre est écrit par David Kella. David Kella, je vous en avais déjà normalement entendu parler dans cette émission, parce que j'avais diffusé son. Comment ça s'appelle ? Sa conférence qu'il avait fait à Albi sur l'économie du réel. Son livre le plus connu pour l'instant. Donc lui, il est directeur de, il est enseignant-chercheur à Angers, et il est voilà spécialisé donc en économie. Il a déjà publié plusieurs livres. Alors il a fait par exemple La fin de l'Union européenne, toujours avec Coralie Delhomme. Il a fait son livre le plus connu, L'économie du réel, que je vous chroniquerai un de ces jours, et donc 10 questions plus une. 10 plus une question, je sais pas comment on peut le dire, mais c'est pas grave, sur l'Union Européenne. Donc c'est sorti par contre chez Michelon et ça coûte 12€, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous préciser les tenants et aboutissants. À côté de ça, il fait partie du collectif Les Économistes Atterrés, pour lequel il a collaboré sur deux ouvrages, Nouveau Manifeste des Économistes Atterrés, publié chez Les Liens qui Libèrent. Et en 2018, il a publié Macron, un nouveau tournant, toujours avec les économistes atterrés, avec les liens qui libèrent. Pour Coralie Delhomme, le parcours est un petit peu différent. Elle est essayiste. On la retrouve par exemple dans Marianne. Je sais que chez certains, ça va les faire ouvrir. Oh non, pas Marianne! Mais c'est pas grave, je le dis quand même. Et en fait, elle anime le blog L'Arène Nue. L'Arène, comme là où on fait la bagarre. Pas l'Arène, pas la dame, quoi. Et elle a publié 4 livres, donc on a celui que nous allons décortiquer aujourd'hui, donc 10 plus une question sur l'Union Européenne. Elle a fait aussi le livre La fin de l'Union Européenne, donc avec David Kella. Et elle a publié son premier livre en 2014, c'était Europe, les États désunis. Et le dernier qui est très révélateur aussi d'une certaine pensée française, qui est d'ailleurs expliqué, un petit peu, qui est expliqué succinctement, mais... expliqué dans le livre, c'est le couple franco-allemand n'existe pas, comment l'Europe est devenue allemande et pourquoi ça ne durera pas. Ça, c'est, et tous ces livres, c'est chez Michelon, maison d'édition de goût. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc en fait, le livre qui nous intéresse aujourd'hui, ben, je pense que je vais pouvoir passer directement à la quatrième de couverture, mais en fait, la quatrième de couverture va me permettre de, je pense, de faire toutes les questions d'affilée et de vous dire à peu près ce qu'il en ressort. Moi, je vous recommande... Alors, on va déjà faire la conclusion dès le début, ça fait que même pas 3 minutes d'émission, mais je pense que ce n'est pas grave. C'est un livre qui a été fait par ses auteurs, qui a été vu aussi par ses auteurs et son éditeur, comme un livre qui souhaitait mettre en avant, il n'est pas sorti au niveau des, comment ça s'appelle, juste avant les élections du Parlement européen pour rien, en fait il souhaitait faire un explicatif de la situation actuelle de l'Union européenne, donc déjà à savoir replacer l'Union européenne à son contexte, donc à savoir par exemple, comme c'était pour les élections du Parlement, à quoi sert le Parlement, tout simplement, mais aussi pour la recontextualiser historiquement dans les crises récentes, donc à savoir la crise de l'euro, la crise des la crise des migrants, nous avons eu la crise grecque qui a suivi tout cela, les différentes actualités aussi qui ont pu parsemer le ciel européen, donc à savoir quand Viktor Orban s'est fait un petit peu taper sur les doigts, tout ça, etc. Donc, voilà, en fait, ce livre, c'était vraiment un livre qui se contextualise. Alors, c'est un livre, voilà, vous pouvez le lire maintenant, c'est peut-être quand même plus... c'est pas un livre qui a forcément une volonté historique, il a une volonté didactique d'expliquer les pourquoi du comment, et je trouve que là-dessus, le bouquin fait forte impression. Ce que j'ai pas, bon, je suis déjà très intéressé à la question européenne, donc je n'ai pas tout découvert, mais quand même, il va chercher des petits détails de temps en temps qui font la différence, et là-dessus, si vous voulez vraiment vous pencher sur les questions européennes, jeu de mots presque, Je pense que c'est un livre qui est à lire. Il est quand même très bien fait. On pourrait se penser que c'est un livre qui serait proche des Frexiteurs. Pas du tout. Justement, il remet un petit peu les Frexiteurs dans l'endroit où c'est qu'ils sont. Hashtag surtout ceux qui pensent à l'article 50. Et c'est vrai que là-dessus, le livre est vraiment pour moi une sorte de. Faut l'avoir lu si vous vous penchez sur la question européenne. Après, il y a des livres qui vont forcément beaucoup plus loin sur ce type de questions. On a le livre d'Olivier Delorne, par exemple, 30 raisons de quitter l'Union européenne, que j'ai commencé à lire, qui est très intéressant à lui aussi. Mais voilà, si vous voulez commencer par un livre pour vous poser quelques questions, si vous posez la question sur l'Union européenne, pour sortir des carcans aussi de c'est bien ou c'est de la merde, je pense que c'est un très bon point de départ. Donc la première question du livre est. Quels sont les enjeux des élections européennes? Le Parlement européen a-t-il de vrais pouvoirs? Eh bien, je vais répondre à chacune de ces questions assez rapidement. Le livre ira beaucoup plus loin. Je ne fais que retranscrire ce que j'ai lu. Voilà, c'est à peu près pour vous donner un ordre d'idée de vers quoi s'orientent les livres. Pour vous donner quelques pi voilà, pour vous donner déjà quelques pistes de réflexion par rapport aux élections européennes qui arrivent. Mais surtout, voilà, pour donner un avis sur l'Union européenne, tout ça, etc. Alors le Parlement européen, en fait, il n'existe pas presque en tant que tel. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans la lecture et ce que je ressens aussi, moi, en tant que tel. Parce que, en fait, pour qu'il y ait un Parlement, il faut qu'il y ait une sorte de peuple européen, quelque part. Ça, c'est abordé un peu plus loin dans le livre. Mais moi, c'est ce que j'en ressens. Parce que, en fait, on fait une sorte d'agglomérat de parlementaires qui sont les uns à côté des autres. Et en plus, ils sont obligés de s'agglomérer en sorte de parti, cette fois-ci au niveau européen. Donc en fait, on se retrouve avec des gens comme Laurent Wauquiez et Angela Merkel, qui sont des partis assez proches, mais quand même une certaine différence, qui se retrouvent un petit peu à collaborer avec des gens comme Viktor Orban, tout ça, etc. Donc c'est vrai que ça fait une sorte de globibulga. Ça fait un truc très indigeste, et on se dit, mais finalement, pourquoi? Parce qu'en fait, la droite. La droite, je sais pas, de Pologne, c'est pas forcément la droite en France, encore moins la droite au niveau des Pays-Bas. Bon, c'est vrai qu'on se pose quand même des questions, au Danemark, hein. Et on se dit, mais finalement, pourquoi? Donc en fait, tout ça, c'est parce que déjà, il n'y a pas forcément de peuple européen. Alors, ça, je pense que certains y croient avec Erasmus, tout ça, etc. Mais c'est un petit peu, pour moi, c'est grosse balivernes, c'est que des conneries, c'est du vent, voilà. On a déjà du mal à avoir dans les nations en tant que telles, je pense que c'est pour la France, hein, si je vous parle d'identité culturelle, tout ça, ça risque de vous parler. Donc, on a déjà du mal à être très homogène, hein, je pense que certains pensent que la France est un État excessivement raciste, peut-être, mais tout ceci est une autre question. Donc, comment voulez-vous que si déjà en France, on a tous du mal à avoir une certaine. Une homogénéité, je sais pas, mais voilà, qu'on ait déjà du mal à avoir le même esprit de la nation. Comment voulez-vous qu'entre deux nations qui sont elles-mêmes séparées, bah, du coup, par les mêmes problématiques, vous voulez qu'on ait un peuple qui soit quelque chose d'assez cohérent, quoi. Bah, du coup, il n'y en a pas. Et donc, c'est pour ça que le Parlement européen n'existe pas, pour mon humble avis. Mais eux, après, ils notent d'autres problématiques. Donc, en fait, c'est que le souci, c'est qu'il n'a qu'un ordre consultatif, quoi. Grosso modo, il fait deux, trois bricoles de temps en temps. Mais en fait, il est surtout là à titre consultatif, le Parlement. Et alors que c'est le Conseil européen, donc à savoir le Conseil européen, c'est le chef d'État de l'Europe, hein, qui, eux, mènent la cadence, quoi. Donc, en fait, maintenant, il ne sert qu'à une chose, à peu près, le Parlement. Enfin, grosso merdo, hein. Donc, à savoir, c'est un petit peu le truc du pauvre, c'est. Il sert d'enjeu national, donc c'est ce qu'on nous resserre. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein, d'ailleurs, pour cette campagne. Emmanuel Macron a décidé de descendre dans l'arène, pour. Pas la reine nue, pour un petit peu se friter avec le Rassemblement National, parce qu'il a décidé de faire du Rassemblement National son seul ennemi. En fait, il nous rejoue 2017. C'est en fait une stratégie, comment j'appelle, qui est vraiment à très court terme. Parce qu'en fait, en faisant cela, un petit peu, il légitimise l'extrême droite. Faut pas se cacher. Et il se légitime aussi trop lui-même, en se disant, eh bien, écoutez, en fait, je ne suis pas que un homme qui sort de... Je suis pas que l'ami des banquiers, je suis aussi le seul rempart face à l'extrême droite, pardon. Et moi, je trouve ça absolument gênant de réduire tout à ça. Donc, c'est-à-dire, c'est un petit peu moi ou le chaos. Et je vous laisse imaginer les dégâts que ça risque de faire dans quelques années. Sachant que ceux d'avant nous avaient fait un petit peu la même chose. C'était moi ou le chaos. Bah d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui s'était passé aussi avec François Hollande. En fait, les gens n'ont pas forcément à l'époque validé le programme de François Hollande ou la personnalité de François Hollande. À l'époque, c'était du dégagisme pour Nicolas Sarkozy. Et c'était à l'époque la personnalité à peu près la plus consensuelle qu'il soit. Et on a vu le résultat. Je pense que pour Emmanuel Macron, c'est un petit peu la même chose. Voilà, même si la digue a commencé à céder... au second tour, on a vu beaucoup plus de gens s'abstenir ou pas donner de consignes claires de vote. Et pour moi, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Je préfère pas savoir trop quoi en dire. Mais au moins, je trouve que les gens commençaient à réfléchir hors du système. Écoutez, c'est moi ou le chaos, ou c'est moi ou la... C'est... Enfin, que... voilà. Ou alors, cet ancien système qui était c'est soit la droite, soit la gauche. Voilà, c'est un petit peu... Alors qu'en fait... globalement, quand on se replace à un certain niveau, maintenant c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, donc à savoir si c'est du libéralisme ou du libéralisme. Voilà. Et maintenant, en fait, là, pour revenir à mon parlement, j'ai mis digresser, en fait maintenant il peut nommer le président de la Commission européenne. Donc, la Commission, c'est vraiment ça fait partie des deux plus grosses instances voilà, de l'Union européenne avec le Conseil européen. La Commission, c'est plus le législateur. Et le souci, c'est que derrière, pour l'instant, alors on a pas plus de recul que ça, sauf que ça risque d'être un petit peu les chefs d'État, enfin les chefs d'État, les partis qui régentent les États dominants, bien évidemment, enfin, qui mènent la course. Ils risquent de proposer leurs candidats, et donc on se risque de se retrouver avec que des choix un petit peu par défaut, et ça risque d'être un peu bloqué, quoi. Bon, après ça, on verra. Après, seconde question, qui concrètement décide de la politique européenne ? Eh bien, en fait, qui décide de tout cela, c'est un petit peu un tout. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui régente tout de façon globale. On pourrait dire que c'est le Conseil européen, parce que, et en plus, ce serait peut-être pas plus mal, parce que le Conseil européen, il est composé des chefs d'État, et les chefs d'État sont normalement élus. Hein, jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas... En Union européenne, il n'y a pas de masta dictature. Donc, légitimement, ils ont plus de poids que le commissaire européen, tout ça, etc., qui lui n'est pas élu. Donc on pourrait se dire que c'est une bonne chose. Et je pense que ça est une. Malheureusement, tout ceci est chapeauté par d'autres choses. Donc on a aussi le suivisme de l'Allemagne. Le suivisme de l'Allemagne. C'est-à-dire que les gens suivent l'Allemagne. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en France, pardon. Donc c'est les. François Hollande a été élu, il est allé voir Angela Merkel pour dire que c'était bien. Nicolas Sarkozy avait fait à peu près la même chose. Et Emmanuel Macron est à peu près dans la même disposition. Sauf que lui, il est arrivé avec une situation un petit peu plus particulière, c'est que lui, il essaye de se voir un champion de l'Europe parce qu'il a senti que Angela Merkel était vraiment en fin de course. Elle avait eu la coalition arc-en-ciel, Jamaïque. Que c'était toutes les couleurs fusionnées de tous les partis qui avaient décidé de faire une coalition pour que Angela Merkel reste chancelière, tout simplement. Sauf que voilà, on a vu qu'elle est arrivée vraiment en bout de course, donc maintenant il essaie de nous faire croire qu'il est le champion européen, mais voilà, vous comprendrez qu'à la fin il aime bien se fâcher avec du monde, donc on n'est pas dans la merde. Et en fait, voilà, l'Allemagne, en fait, elle a régenté pas mal de trucs, parce qu'à côté de ça, elle a placé ses pions dans, par exemple, la Banque Centrale Européenne. Donc forcément, ils suivent une politique, enfin, comme ils ont été formés à l'allemande. Hein, je pense que Tursos, c'est pas galvaudé. Je pense que si on mettrait quelqu'un à la française, il serait formé à la française. Je pense que si on mettait un haut fonctionnaire français, je pense que ça gâcherait pas un haut fonctionnaire espagnol. Ou autre, hein. D'ailleurs, je vais pas être méchant. Forcément, ils suivent certaines règles qui sont à l'allemande. Et tout en sachant que l'euro a été fait à une certaine époque pour être un petit peu le clone de... un petit peu le clone du Deutsche Mark, eh ben on se retrouve finalement avec une banque centrale européenne qui marche à l'allemande. Donc forcément, eh ben, comme ceux qui tiennent le volet monétaire, eh ben, suivre l'Allemagne, eh ben, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu avec la Grèce, hein, on a vu un entêtement de l'État allemand, surtout, parce qu'il n'y avait pas forcément quelque chose d'unanime par rapport à la crise grecque. Je pense que certains pays étaient favorables à faire sauter une partie de la dette grecque pour permettre au pays de respirer. Ben finalement, c'est la Banque Centrale Européenne qui était menée, qui était, je sais plus, c'était menée par un Allemand et qui a décidé de faire la guerre parce que, ben, écoutez, par chez nous, ça se passe pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on a eu la fameuse Troïka, tout ça, avec le FMI, avec le Conseil Européen qui a fait naître sué sang et eau à nos amis grecs. Et voilà, attention, et après, voilà, et. Donc on sent qu'il y a une sorte de cavalier seul de l'Allemagne sur ce point-là, même si voilà, parce que là, dans ce cas-là, c'est eux qui avaient mis leur bille dans certaines institutions. Mais après, on a eu par exemple la crise des réfugiés, où là, c'est l'Allemagne qui a décidé, pareil, de faire cavalier seul, mais c'est l'État, et d'accueillir, ben, je crois que c'était 1 million ou 2 millions de réfugiés, là où certains pays refusaient, la France par exemple, hein, faut pas se cacher, de refuser, d'accueillir des réfugiés. Donc finalement, qui dirige pour l'instant? Moi je dirais l'Allemagne, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, le livre va un petit peu plus loin là-dessus, mais c'est vrai que, voilà, et puis il y a quand même des tractations en ce moment entre l'État français et l'État allemand pour se dire, eh bien, écoute, moi je vais mettre quelqu'un comme commissaire européen, et toi tu vas mettre quelqu'un à la BCE, et puis après on verra, on s'arrangera. Alors, question 3, l'Europe est-elle dirigée par le couple franco-allemand? Alors, le problème, c'est que pour qu'il y ait un couple, il faut que les deux soient d'accord, et c'est là le problème. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour l'Allemagne, l'Europe, ça coule plus de sources parce que c'est un pays fédéral, comme les États-Unis, alors que la France est un pays centralisé. Et ils ont eu beaucoup plus de facilité à comprendre les enjeux de l'Union européenne, là où la France, forcément, a eu un peu plus de mal. Comme j'ai dit tout à l'heure dans la réponse 2, en fait, ils ont mis bah, des personnalités, elles aussi, sur plus d'échelons que la France. Nous, on pourrait citer par exemple Pierre Moscovici pour la France, mais ce serait l'un des rares que je puis. On a Michel Barnier aussi, qui a mené comment s'appelle, les négociations pour le Brexit. Mais en termes de hauts fonctionnaires européens, il y en a très peu qui sont français et beaucoup plus qui sont allemands. Donc c'est vrai que pour l'instant, dans le couple, il y aurait un petit cocu, et je pense savoir qui c'est, et je pense que c'est la France. Et après, historiquement, voilà, il y a eu, comment ça s'appelle, à l'époque, quand François Mitterrand avait voulu un petit peu tordre les Allemands, en créant l'euro, en fait, dont les Allemands ne souhaitaient pas à l'époque, en fait, ils ont fini par accepter, mais avec leurs conditions, et c'est là qu'on s'est fait un petit peu avoir. Parce qu'en fait, l'euro est devenu un clone du Deutsche Mark. Alors ça, c'était il y a. Ça a duré quelques années. Hein. Avec le début 2010, on va dire que la Banque Centrale Européenne, devant la crise de l'euro, a fait des choses que les Allemands, eux, n'auraient pas fait. À savoir un petit peu produire de la monnaie, racheter des titres à droite à gauche. Ça, je pense que les banques allemandes ne l'auraient pas fait. Mais voilà. Disons-le, pour être un couple, il faut être deux. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas. Voilà, on va dire que c'est un petit peu l'Allemagne qui marque le tempo. Et d'ailleurs, le livre le rappelle, cette expression de couple franco-allemand n'existe absolument pas en Allemagne. Et ils savent très bien qui c'est qui c'est qui porte la culotte, et c'est pas la France. Hein. Après, question 4. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'économie grecque? Eh bien, en fait. C'est simple, c'est que l'euro, bon, grosso modo, hein, il y aurait, je pense, d'autres explications là aussi, mais c'est en fait que pour les pays du sud de l'Union européenne, grosso modo, c'est-à-dire trace un trait au-dessus de l'Italie, c'est que l'euro est un carcan bien trop rigide pour donc l'économie grecque, mais aussi pour toutes les économies de l'euro. En fait, c'est une. Comment dire, c'est pour. Ça avantage à peu près que l'Allemagne, peut-être les Pays-Bas. Et pour les autres pays, c'est un petit peu déficitaire. Alors pour la France, c'est très peu, mais pour des économies sous-industrialisées comme la Grèce, eh bien forcément, c'est un carcan beaucoup trop rigide, sachant que, comme ils font partie de la zone euro, eh bien voilà, forcément, ils n'ont plus ce levier monétaire. Donc je vous ai parlé dans une émission précédente, et dont je vous reparle aujourd'hui, donc savoir créer de la monnaie, tout ça, etc., essayer d'acheter des actifs, enfin, bon, essayer de faire quelque chose, voilà, avec les capitaux. Et l'argent, mais là, forcément, comme ils l'ont pas, ben, ils peuvent pas. Et comme c'était des pays qui s'étaient déjà pas vraiment industrialisés à l'époque, avec comment ça s'appelle l'euro, et c'est cet euro trop fort, ben, les actifs sont pas arrivés dans ces pays-là. Et forcément, dès qu'il y a une crise, et ben, quand tu t'exportes rien, et ben, tu as ton déficit qui se noie. Et plus il se noie, et moins tu as d'argent, et on en arrive Là, on en est arrivé. D'ailleurs, ce n'a pas été le seul pays à subir ce genre de restrictions. On a eu l'Espagne, on a eu l'Italie aussi. Bizarrement que des pays du sud de l'Europe. Et le Portugal aussi. Question numéro 5. Ben, par exemple, voilà, j'en parlais. L'exemple du Portugal ne démontre-t-il pas qu'il est possible de retrouver de la croissance économique tout en appartenant à la zone euro? Alors, oui, on pourrait dire ça. Mais en fait, c'est un petit peu du croupipotage. Parce que quand on regarde les faits, le gouvernement de gauche qui est arrivé, donc c'est Antonio Costa, il a fait profiter des réformes précédentes qui, elles, avaient déjà remis à peu près le public, le pays, pas le public, le pays à l'État. Donc c'était voilà, une belle cure d'austérité, comme on les aime, qui avait à peu près remis les choses à flot. Et ce gouvernement de gauche, quand il est arrivé, en fait, il a fait des jolies annonces. Hein, je crois qu'ils ont augmenté un petit peu le SMIC, tout ça, etc. Le SMIC portugais, bien évidemment. Sauf qu'en fait, ce que le gouvernement de gauche d'Antonio Costa a fait, SMIC européen, enfin, SMIC portugais, tout ça, etc. En fait, eux, ils ont gardé les réformes qu'avaient fait les précédents, qui étaient un gouvernement de droite. Et c'est en fait le pays, l'un des pays européens qui va le plus loin au niveau du dumping social. Donc le dumping social, c'est la règle du moins de 10 ans. Voilà. Et eux, leur but, c'était grosso modo de faire venir du retraité français. Je caricature un petit peu, mais c'est un petit, c'est ça, ouais, voilà. Dans l'idée, c'est de faire revenir du retraité européen qui finalement dépensera au Portugal, mais qui n'est pas payé par l'État portugais, enfin, qui n'est pas rémunéré par l'État portugais. C'est pas forcément créer de l'activité, ça. Voilà, ça devient une sorte de club med géant, mais c'est pas ça, quoi. Et c'est quelque chose d'endémique dans les pays périphériques de l'Union européenne. Alors il y a différentes stratégies. Il y a ceux qui profitent de l'influence allemande, comme la Pologne n'est pas vraiment un pays périphérique, mais voilà, c'est plutôt du centre de l'Europe, de l'Union européenne. Mais c'est un petit peu les mêmes idées. L'Irlande, voilà. L'Irlande en est un, par contre, pays périphérique qui fait un petit peu les mêmes stratégies que le Portugal. Ben, c'est on fait du dumping social et on essaie de faire venir forcément les investisseurs, ben, on essaie de faire venir des capitaux tels qu'ils soient, et puis le reste, on va pas s'embarrasser. C'est pas très grave. Le 6. L'harmonisation fiscale et sociale est-elle possible au sein de l'Union européenne? Alors, si on voudrait rattraper, par exemple, le coût horaire entre la France et les pays les plus où le coût est le plus bas, il faudrait par exemple attendre 2190 pour avoir une parité du coût du travail. Je pense que quand je vous dis ça, je pense que la question a déjà trouvé sa réponse, mais un peu aussi aller plus loin. C'est à savoir qu'en Europe, on a ce qu'on appelle des travailleurs détachés. Et les travailleurs détachés, en fait, c'est des gens qui travaillent par exemple en France, mais qui sont payés normalement au salaire. Bon, ça dépend, les législations qui sont payées normalement un salaire français, mais qui ne paient pas leurs cotisations sociales au niveau. Comment dire, au niveau de la France. Ils les paient au niveau de leur pays d'origine. Alors du coup, ça fait un coût qui est quand même un petit peu moins élevé, et puis on peut même aller très loin, parce qu'en fait, on peut faire ça dans l'aviation, ou dans, ben, surtout chez les routiers. Hein. Je sais plus qui c'est qui l'avait dit, mais il avait dit que plutôt que dessiner des étoiles sur le drapeau européen, on aurait dû dessiner un camion, tellement ça représentait le but ultime du marché européen. Ben, qu'en fait, on se retrouve avec énormément de Polonais, même maintenant de Hongrois, sur nos routes pour livrer parce que bah écoutez ils coûtent moins cher alors et qui font à peu près la même chose, ils parlent pas français mais c'est pas grave alors laissez-vous faire. Et donc forcément on se retrouve avec des coûts sociaux bah, qui sont plus bas, puis voilà. Alors du coup comment rattraper ça? Alors on pourrait se dire soit on rattrape vers le haut ou vers le bas, mais bon, pour faire du rattrapage ça risque de prendre un peu de temps, parce que si chez nous ils font du rattrapage par le bas, je peux te dire que il y aura un petit peu plus que quelques gilets jaunes dans la rue. Et au niveau de l'harmonisation fiscale, y a eu des tentatives, hein, donc de faire un petit peu quelque chose d'assez homogène. En fait, le but c'était d'éviter les failles fiscales grosses comme une maison. Mais à côté de ça, on s'est retrouvé avec donc des fiscalement, il fallait être plus blindé. Et par contre, on peut utiliser, en veux-tu, en voilà, du crédit d'impôt, comme par exemple le CICE, pour la compétitivité des entreprises françaises. C'est le crédit d'impôt de compétitivité, je crois, qu'a instauré Emmanuel Macron. Donc en fait, on peut utiliser les États peuvent financer les entreprises, en veux-tu, en voilà, pour faire baisser la fiscalité. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec Amazon. Alors je crois qu'aux États-Unis, c'est un petit peu ça. Alors ça dépend les cas de figure. Des fois, c'est baisse du taux d'imposition, tout simplement. Soit c'est du crédit d'impôt. Donc si tu viens chez moi, je te donne de l'argent et tu verras, ça sera bien. Donc je pense que pour que tout s'harmonise, c'est proche de l'impossible. Si certains veulent y croire, je ne leur en voudrai pas, mais quand on voit qu'on a voulu lancer une taxe pour les GAFAM, donc les géants des internets, et quand on voit ce que c'est devenu, c'est-à-dire rien, parce que des pays comme l'Allemagne ou l'Irlande craignaient de représailles de la part de nos amis américains, je pense que c'est quasi impossible qu'il se passe une harmonisation assez correcte, avec moins de comment ça s'appelle, d'inégalités, ça me semble, quand même. Très compliqué. Pourquoi tant de pays européens sont-ils tentés par le populisme ? Eh bien, en fait, si vous voulez, je l'ai expliqué un petit peu plus fort dans l'épisode 5 de Flux RSS, à savoir que par rapport à l'Union européenne, comment pouvait réagir la gauche ? Eh bien, que la gauche est un petit peu coincée par le biais des traités, etc. Et si on veut rester dans le cadre européen, comme il faut respecter le droit, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, tout simplement. Et bien en fait, le populisme, il attire les gens par le simple fait de dire et de faire croire, surtout, qu'il va vous faire bouger les lignes. En disant, écoutez, alors sachant que souvent, des fois de temps en temps, c'est on va quitter l'Europe, tu sais, etc. Alors que je pense que les mecs, ils veulent pas. Hein, parce qu'ils ont tous leurs sous en euros. Tu vois, et comme ils ont 4 sous, ils voudraient pas qu'on sait jamais, tu sais, que ils perdent leur argent, je sais pas quoi. Et voilà, et puis du coup, on fait des réformes un petit peu symboliques, donc ça c'est le... comment dire... on peut pas arrêter tous les migrants, mais si on arrête un bateau de migrants, quand même, c'est la classe. Parce que les gens, ils vont se dire « Waouh, le mec, il voit comme moi !» Il voit que les migrants, c'est gênant. Alors, je parle pas dans mon cas, moi. En faisant du symbolique, les populistes aussi, voilà, ils parlent à une frange de la population qui, des fois, exagère les problèmes, parce que je pense pas que tous les problèmes soient forcément... insurmontable ou si prégnant que ça, mais voilà, en fait il flatte les gens en disant finalement voilà une élite, quelqu'un qui croit comme moi, donc forcément j'en serai un petit peu plus proche. Là-dessus, on a rajouté que l'Union européenne, en faisant cette course au moins de 10 ans, est favorisée, hein, parce que c'est le libéralisme économique, donc c'est un petit peu la course au moins de 10 ans. Et, si je vous dis, est-ce que vous préférez payer votre baguette 2 euros ou 1 euro, et je sais que certains, je pense à toi, mon ami Toucheux, peut-être, diront oui, mais quelle est la qualité ? Mais bon, des fois, la qualité, on s'en bat un peu les couilles. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est un peu comme ça. Donc, je pense que les gens iront naturellement vers la baguette à 1 euro. Et voilà. Pourquoi ? Parce que, voilà, je pense qu'on n'a pas tous les porte-monnaies extensibles. Et donc, quand on ramène ça au niveau des entreprises et des États, on en arrive à ce cas-là. Donc, il y a une sorte de colonisation économique de l'Est par l'Ouest, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, hein. Ils ont délocalisé pas mal de leurs entreprises en Pologne, surtout que le coût du transport en camion, tout ça, etc., il est peanuts. Pourquoi se gêner ? Et après, on a eu une autre fuite dans l'autre sens, qui est à savoir les gens qui étaient aisés dans les pays européens, Roumanie, Pologne, tout ça, etc., et bien, ils sont allés vendre leurs talents, par exemple, en Grande-Bretagne. Pourquoi se gêner ? L'Union européenne le permet, pourquoi se gêner ? Donc forcément, qui c'est qui reste ? Eh bien, les pauvres qui sont obligés de subir ça, parce qu'ils peuvent pas aller ailleurs, eux. Et forcément, quand tu leur mets des cures d'austérité, tu leur mets des salaires qui augmentent jamais, forcément, ils seront attirés par des gens qui vont faire croire qu'ils peuvent bouger les lignes. Tout en sachant qu'en plus, les pays de l'Europe de l'Est ont subi de plein fouet la crise des réfugiés. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils se sont dit dans leur tête ? Ils se sont dit, mais en plus de se sentir lésés en termes économiques, on nous demanderait de recevoir des gens qui ne sont pas culturellement compatibles avec nous. Je suis dans leur tête à eux, après je ne vais pas dire est-ce que c'est oui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Je vous laisse en juger, mes chers amis. Et donc forcément, les mecs, ils se sont retrouvés un petit peu les dindons de la farce, ils se sont dit, ouais, on reçoit des migrants, tout ça, etc. Donc forcément, quand ils voient quelqu'un qui leur dit « Oui, moi, les migrants, je te les mets dehors », forcément, les gens se sentent écoutés. Et on pourra noter aussi que ces discours populistes sont aussi anti-européens, parce que ça va un petit peu de pair. C'est aussi du fait que la solidarité européenne, bon, ben, elle est un petit peu à géométrie variable, quoi. Avec les Grecs, on les a fait suer sang et eau. Pour la crise des réfugiés, ça a été un petit peu la même chose, hein. On a laissé les Grecs se débrouiller, on a laissé les Italiens se débrouiller. On a dit aux pays de l'Est, genre la Serbie, tout ça, etc., ben, démerdez-vous là-bas. Avec mon migrant, on verra. Non, forcément, faut pas s'étonner que les discours populistes augmentent. Parce que maintenant, il y en a quand même. Des discours populistes commencent à y en avoir pas mal. Hein. Je crois que tous les pays européens, maintenant, quasiment, ces partis populistes, dont certains sont au pouvoir. Hein. On peut parler de la Liga, par exemple, ou du mouvement 5 étoiles en Italie. On a, pour ce qui intéresse les gens qui se penchent sur le Brexit, on a le Brexit Party. De Nigel Farage, par exemple, et après on a l'AfD en Allemagne, on a le comment s'appelle le chancelier autrichien aussi, Sébastien Kurz, qui est quand même plutôt à droite. Donc voilà, on va dire que. Mais de toute façon, ces élites-là aussi se plaisent dans une certaine idée de l'Union européenne, parce que par exemple, le Rassemblement national a. À une époque, c'était on voulait quitter l'Union européenne, ils sont carrément passés à autre chose. Eux, maintenant, ils disent qu'ils veulent faire l'Europe des nations. Donc, on va dire, ils veulent laisser les autocrates entre eux, ça ira très bien. C'est à peu près ça. Si, alors, 8. Peut-on sortir de l'euro? Et si oui, à quoi cela servirait-il? Alors, le problème de sortir de l'euro, je pense que je vais aller assez vite sur ce chapitre. Là, je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est hyper intéressant. C'est que déjà il démontre un petit peu cette idée que l'euro a augmenté les prix, c'est pas forcément vrai. Le problème c'est que les choses ont un petit peu bon, déjà c'est que les choses ont un petit peu augmenté différemment. Le prix des produits ont certes augmenté, mais le problème c'est comme on est maintenant d'arriver dans un ordre ordo-libéral, donc à savoir que les États doivent régenter les énergies du marché, eh ben, nos salaires ont moins augmenté que le coût des produits. Tout simplement, donc forcément tout coûte plus cher. Et ce n'est pas forcément la faute à l'inflation. Et après, derrière, voilà, le souci, c'est que si on quitte que l'euro, en fait, on reste quand même sujetti aux traités européens, donc à savoir l'austérité, qui favorise bah, une économie de rentiers, parce que quand on force pas les gens à investir, bah forcément, c'est les rentiers qui gagnent. Hein. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe avec Bernard Arnault, tout ça, etc. Qui eux bah, profitent de l'économie française qui s'est libérée sous Macron et qui eux ont augmenté des fois leurs revenus de 40%. Moi je peux vous dire que mon revenu n'a pas augmenté de 40%, loin de là s'en faut. Et forcément, dans ce type d'économie-là, bah, c'est les plus forts qui dominent. Et donc, comme les Allemands, et bah, ça leur va très bien, bon, ça reste comme ça. Donc, voilà. Après, c'est au global, si vous voulez voir comment ça sortit, comment ça se passe, je vous invite forcément à lire le livre, ça a beaucoup plus. Intéressant. Question 9. Pourrait-on démocratiser l'Union européenne en changeant les traités? Alors ça, j'en ai parlé aussi. Bah, c'est un petit peu une question tendancieuse. Parce qu'en fait, si vous voulez, on ne peut pas forcément sortir des traités. Parce que il faudrait, pour les changer plutôt, il faudrait être à l'unanimité. Ce qui me semble déjà largement improbable quand je vois donc la taxe GAFAM dont nous avons parlé ou la crise. Des réfugiés, quand je vois la capacité qu'on a eue pour s'entendre, je me dis qu'on est quand même bien dans la merde pour changer les traités de façon unanime. C'est un cas d'école, voilà. Comme ils disent dans le livre, c'est un cas d'école, donc c'est possible dans un monde idéal où tout le monde aurait une, je sais pas, où tout le monde serait de gauche et tout le monde aurait la même sensibilité et tout le monde, et même, ça me semble tellement improbable devant la diversité des cultures entre tous les pays. Ça me semble difficilement envisageable de tout remettre sur la table d'un coup comme ça. Donc maintenant, voilà, l'Europe s'est élargie et, voilà, en fait, les déficits qu'on avait à une époque se sont aggravés, tout ça, etc. Donc ça me semble quand même compliqué. C'est ce qu'il parle. Donc, sans peuple européen, finalement, il n'y a pas de démocratie, quoi. Parce que, comme la démocratie, c'est le peuple, s'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de démocratie européenne. Donc, en fait, l'Union européenne, en fait, démocratique, elle n'existe pas vraiment. Et c'est ce qui est appuyé pour aller plus loin, c'est que même l'Union européenne est adémocratique. Sinon, ce qu'ils avaient fait, libérer le marché, tout ça, etc. C'est-à-dire mettre le marché un petit peu au-dessus de tout. C'est-à-dire que même au-dessus du peuple, bah, en fait, ça aurait pas été possible presque en démocratie, parce que bah, c'est pas tenable. Parce que finalement, s'il y a un gouvernement, mais ça, bah, le gouvernement d'après qui arrive, il n'est pas d'accord, bah, il peut l'enlever, quelque part. Bah, sauf que là, comme il n'y a pas de gens élus vraiment, et bah, en fait, ils ont mis au fur et à mesure, ils ont mis des petites briques et des petites briques, des petites briques qui redescendaient au niveau d'État démocratique. C'était un peu, bah, c'est un peu c'est un petit peu comment ça s'appelle, le ver est dans le fruit, quoi. Donc en fait, l'Union européenne par nature ne peut pas être démocratique, elle est adémocratique. Et c'est vrai que dans le livre, c'est assez bien expliqué, je trouvais les comparaisons assez pertinentes. C'est vrai que les derniers chapitres sont, si vous voulez, aller beaucoup plus loin dans l'analyse de l'Union européenne, ils sont vraiment très pertinents, et ça j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, bon, pour changer l'Union européenne, et comme aussi les traités, c'est ceux qui régentent tout. Donc en fait, si on change de paradigme dans les traités, qu'on dit par exemple, bah, plutôt que faire comme disait Aurélien Bernier et le collectif 2 dans le livre La gauche, comment ça s'appelle? La gauche à l'épreuve de l'Union européenne, il disait pourquoi on ne changerait pas de paradigme, bah, que chaque pays européen a sa monnaie, a son économie, mais qu'on essaie de cumuler, de faire quelque chose, de cumuler les ressources pour faire, je sais pas, de la recherche, de la culture, du cinéma européen, le fameux Netflix européen, peut-être, je ne sais pas. Pour faire ça, ben forcément, il faudrait sortir du cadre des traités, parce que les traités, en fait, eux, ils sont là pour régenter le marché unique, globalement, et qu'on appelle la mouvance des capitaux. Donc forcément, si tu veux faire autre chose, ben c'est-à-dire que tu sors des traités. Sauf que comme c'est les traités qui composent l'Union européenne, comme elle est actuellement, ben en fait, tu en sors. Voilà, c'est un petit peu, faut bien réfléchir à ça, mais c'est un petit peu ça, quoi. Question numéro 10. La France doit-elle faire comme le Royaume-Uni et quitter l'Union européenne via l'article 50 du TFUE? C'est le dernier traité européen. C'est un peu plus compliqué déjà, c'est que le Royaume-Uni. Donc nous n'avons pas le livre sterling déjà. Nous n'avons pas notre propre monnaie, donc on est un petit peu emmerdé. Et il faudrait voir. Comme on fait partie de cette zone euro, ce qui se passerait. Parce que la France, eh ben, c'est un membre fondateur de l'Union européenne, qui a fait énormément de choses pour. Et comment serait vécue cette fuite en fait de l'Union européenne, cette sortie de l'euro et de l'Union européenne, comment elle serait vécue par les autres pays, tout ça, etc. Déjà par le peuple français, il faudrait voir ben, déjà s'il est totalement d'accord avec cette sortie. Et après, forcément, on se ferait attaquer par les marchés financiers, parce que. Quand tu as une dette dans une certaine monnaie et que tu essaies de changer cette monnaie de la dette, c'est un petit peu compliqué. Alors c'est assez bien expliqué parce que si la dette est en euros, on peut la passer directement en francs. Mais malgré tout, voilà, ce ne serait pas quelque chose d'indolore, même si certains veulent le faire croire que c'est très facile de sortir de l'Union européenne, même on le fait en rigolant. Non, non, voilà, ça risque d'être excessivement compliqué et il faut se poser les bonnes questions. Et surtout, il faut agir même pas avec prudence. En plus, il faut faire ça avec rapidité. Parce que si on laisse traîner les situations, c'est là que ça va devenir gênant. Parce que c'est là on risque de faire ben, fuir les capitaux. Parce que les mecs, voyant que c'est dans le flou, ben, ils vont partir, tout simplement. Et donc, qui c'est qui va rester? Ben, toujours les mêmes. Non, c'est-à-dire nous, les petits pauvres. Et là, dernière question, la question 11 ou la question plus 1. Quelle est la vision de l'Europe d'Emmanuel Macron? Alors, il s'en prend un petit peu plein la gueule, mais moi je pense que c'est pas volé. C'est qu'Emmanuel Macron a beaucoup d'ambition, ça ne peut pas lui enlever, mais qu'elle reste tout à peu près lettre morte. Qui dit qu'on va changer d'Europe, qu'on va la faire plus fédérale, plus je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qui, plus je ne sais pas quoi. Et là, il ne sait pas grand-chose pour une meilleure Europe. Par contre, il n'hésite pas à faire des piques à nos voisins, par exemple à l'Italie, hein, avec lequel il s'est quand même pas mal fâché. Disant que le gouvernement italien, c'était à peu près la lèpre. C'est aussi fâché avec la Pologne au sujet comment ça s'appelle, des travailleurs détachés. Donc c'est vrai que pour l'instant, la vision d'Emmanuel Macron de l'Europe, en fait, elle est plus. En fait, c'est du fantasme. Hein, grosso modo, il croit en plus qu'il va pouvoir renverser le paradigme allemand. Il me semble déjà peu évident. Peut-être que s'il est réélu, peut-être, je ne sais pas, mais déjà, il faudrait qu'il soit réélu. Ce serait déjà pas mal. Mais moi j'ai l'impression que c'est beaucoup d'ambition pour peu de choses. Pour peu de résultats. Bah écoutez, voilà, donc cette revue de presse du livre. Il ne veut absolument rien dire. Et terminé, donc c'était 10 questions plus une sur l'Union européenne, et c'est écrit donc par David Kella et Coralie Delhomme. Et c'est chez Michelon et ça coûte 12 euros. J'espère que ça vous aura plu. Donc là, j'ai fait dans les grandes lignes, hein, ils vont beaucoup plus loin que sur certains chapitres que je vous invite vraiment à regarder. Par exemple, c'était le chapitre numéro 8. Peut-on sortir de l'euro? Et si oui, à quoi cela servirait-il? Qui est vraiment plutôt pragmatique, alors factuel, pas vraiment, on peut pas être non plus 100% factuel, mais je le trouve vraiment pertinent par rapport à ce qu'il veut raconter. Alors écoutez, ben je vous remercie, c'était toujours Gandalf81 sur Twitter, qui vous remercie pour votre écoute et qui vous dit à très bientôt pour un prochain numéro de Flux URSS. Ciao ciao! USSR!